France Culture.
Le journal Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. La traque aux États-Unis pour retrouver le meurtrier de Charlie Kirk, le héros de la jeunesse américaine pro-Trump. Sa mort hier soir sur un campus de l'Utah ravive le spectre de la violence politique aux États-Unis. Dans un instant, nous retrouverons notre correspondant à Washington, Franck Mathevon. La Russie menace l'Europe, alerte les élus polonais au Parlement européen à Strasbourg. Un débat a été organisé en urgence pour évoquer ces 19 drones russes retrouvés hier en Pologne. En France, une commission d'enquête parlementaire recommande d'interdire les réseaux sociaux au moins de 15 ans. Elle propose aussi un couvre-feu numérique pour les adolescents et la création d'un délit de négligence numérique. Après ce journal, à 18h15, notre rendez-vous hebdomadaire avant les municipales, maire pour quoi faire. Aujourd'hui, les communes nouvelles, des regroupements de communes qui ne font pas l'unanimité chez les élus. Il était pratiquement inconnu en France, alors qu'aux États-Unis, sa mort déchaîne les passions. L'influenceur conservateur Charlie Kirk a été tué par balle hier soir lors d'une réunion publique dans une université de l'Utah. Âgé de 31 ans, il avait joué un rôle prépondérant dans le ralliement d'une partie de la jeunesse américaine à Donald Trump, avec ses discours enflammés contre l'avortement ou l'immigration. Une véritable chasse à l'homme a été lancée aux États-Unis pour retrouver le meurtrier de Charlie Kirk. On retrouve Franck Mathevon à Washington, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Franck, les enquêteurs ont révélé que l'arme du crime avait été retrouvée et qu'il disposait de bonnes images vidéo du suspect.
Oui, les enquêteurs ont en fait pu retracer le parcours du suspect. Il est arrivé hier sur le campus à 11h52, 30 minutes environ avant le drame. Il a tiré d'une distance de près de 200 mètres depuis le toit d'un bâtiment. Il a été vu en train de courir sur ce toit et il est parvenu à s'enfuir dans les quartiers alentours. L'arme a donc été retrouvée. Il s'agit d'un fusil de précision qualifié de puissant. Les enquêteurs disposent aussi d'empreintes, de pieds, de mains et d'images assez nettes, c'est vrai, du suspect. Pour le moment, il ne les divulgue pas, mais se réserve la possibilité de le faire si cela peut faciliter les recherches. Le tueur serait plutôt jeune. Il aurait l'âge de faire des études, en tout cas. D'après de nombreux experts sur les plateaux télé, le fait que des indices aient été laissés suggère que ce n'est pas l'acte d'un professionnel, même si le tireur était certainement entraîné.
Franck, si la classe politique américaine est unanime pour déplorer le regain de violence politique aux États-Unis, les républicains et les démocrates s'accusent mutuellement d'être responsables de ce regain.
Oui, alors d'abord, il faut souligner qu'il y a une pluie d'hommages depuis hier pour saluer la mémoire de cette figure du trumpisme. Donald Trump a annoncé qu'il lui remettrait à titre posthume la médaille présidentielle de la liberté. Mais la mort de Kirk réveille en effet le débat sur la violence politique. Qui en est responsable? Voici la réponse du sénateur républicain Josh Hawley sur Fox News.
La raison pour laquelle la gauche détestait tant Charlie, c'est parce qu'il les affrontait avec des faits et sa bonne humeur. Il adorait la vie. C'était un homme heureux, un mari heureux avec de beaux enfants. Ils le détestaient pour ça et le détestent encore. Nous devons surmonter la haine qui empoisonne le pays. La gauche empoisonne le pays avec cette haine.
Et la réplique de la démocrate Elizabeth Warren.
Pourquoi ne pas commencer par le président des États-Unis et tous ces mots, ces messages affreux qu'il poste sur les réseaux sociaux? Donc je ne veux pas entendre ces accusations de la part des républicains.
Warren et d'autres démocrates appellent par ailleurs à un contrôle plus strict des armes à feu, appel qui sonne comme souvent dans le vide aux États-Unis, compte tenu de l'attachement des Américains au deuxième amendement.
Merci Franck Mathevon, correspondant de France Culture aux États-Unis. La Russie s'est invitée au Parlement européen aujourd'hui à Strasbourg, plus exactement la violation de l'espace aérien polonais par 19 drones russes hier, une affaire jugée suffisamment grave pour que le Parlement y consacre un débat, rajouté en dernière minute au programme de la session plénière. Très remontés, les eurodéputés polonais ont tenté d'alerter leurs collègues sur la menace russe, chaque jour un peu plus pressante dans l'Est de l'Union européenne. C'est un reportage de Fabien Cazot.
Le ton de cet eurodéputé social-démocrate polonais, Krzysztof Smiszek, se veut alarmiste. Hier, un des drones russes est tombé à quelques kilomètres de son domicile.
Hier matin, l'Europe s'est réveillée face à une réalité totalement nouvelle. Pour la première fois, les Espagnols, les Grecs et les Belges ont pu constater que la guerre se déroule à présent sur le territoire de l'Union européenne et de l'OTAN.
Même l'extrême droite polonaise, celle qui siège aux côtés des proches du pro-russe hongrois Viktor Orban, ont donné de la voix, mais surtout à l'image d'Anna Brilka, pour accuser l'Union européenne de ses propres faiblesses.
L'Europe a délibérément détruit son économie, son industrie et même sa production d'armes au nom d'une idéologie de gauche malsaine qui conduit à une perte de sécurité.
Selon François-Xavier Bellamy, pour la droite européenne, il est effectivement urgent de réarmer l'Europe en passant de la parole aux actes.
Nous n'aurons pas de sécurité sans assumer les moyens de notre défense. La faiblesse est aujourd'hui comme hier le plus sûr chemin vers la guerre.
La Commission européenne promet pour sa part à la Russie un 19e paquet de sanctions économiques particulièrement sévères dans les prochaines semaines.
Fabien Cazot depuis le Parlement européen à Strasbourg. En Italie, c'est l'hiver démographique dans lequel est plongé le pays qui inquiète le gouvernement conservateur. En 10 ans, le pays a perdu près de 2,5 millions d'habitants et les derniers chiffres montrent que le phénomène continue à s'aggraver. Le ministre italien de l'économie n'hésite pas à parler de dépeuplement dramatique. Bruno Duvic nous appel de Rome.
L'an dernier, 370 000 bébés sont nés en Italie, 300 000 de moins qu'en France. C'était le chiffre le plus bas depuis que le pays existe. 2025 risque d'être pire. Sur les 6 premiers mois, ces naissances sont encore en baisse de 7,5%. C'est une chute infernale que n'arrive pas à enrayer l'Italie, car le phénomène s'auto-alimente. La dernière fois que le taux de fécondité était au-dessus du seuil de renouvellement des générations, c'était en 1976. Donc non seulement les couples font moins d'enfants, 1,2 enfants par femme, mais en plus, les femmes en âge de procréer sont de moins en moins nombreuses, 3 millions de moins en 20 ans. Le scénario moyen prévoit donc une dégringolade de la population malgré l'apport de l'immigration. L'Italie, 58 millions d'habitants aujourd'hui, perdrait 4 millions d'âmes d'ici à 2050, 12 millions d'ici à 2080. Ce scénario, couplé à un vieillissement de la population et à une mauvaise intégration des jeunes restants sur le marché du travail, fait peser un risque majeur sur le système de protection sociale.
Bruno Duvic, correspondant de France Culture en Italie. Le Qatar enterre aujourd'hui ceux qu'il appelle ses martyrs après les frappes israéliennes sur la capitale Doha mardi. 6 personnes ont été tuées dans ce bombardement qui visait des responsables du Hamas. Un cercueil porte le drapeau qatari, les 5 autres sont drapés aux couleurs palestiniennes. Le Hamas avait affirmé que ses dirigeants avaient survécu à l'attaque. Le Qatar, lui, considère que ces frappes ruinent ses efforts de médiation pour obtenir la libération des derniers otages à Gaza. La Banque Centrale Européenne a choisi aujourd'hui de maintenir ses taux directeurs, signe que la BCE croit à une inflation contenue dans la zone euro. Après avoir atteint des sommets lors de la crise énergétique, l'inflation est là où nous voulons qu'elle soit, 2,1% cette année, a affirmé Christine Lagarde, la présidente de la BCE. Un relatif optimisme qui intervient au moment où la France est plongée dans la crise politique et budgétaire. Marie Viennot, bonsoir.
Bonsoir.
Christine Lagarde, qui, rappelons-le, a été ministre de l'économie en France, a été interrogée à de multiples reprises sur la situation française.
Oui, et c'est une journaliste américaine de CNBC qui a ouvert le bal.
Bien sûr, je dois vous parler de la France, sa situation politique, l'instabilité et l'augmentation des taux d'intérêt de la dette. Cette situation de déjà-vu vous inquiète-t-elle ?
Voilà, j'aime quand vous parlez français, lui a répondu Christine Lagarde avant de rajouter très vite, je ne ferai aucun commentaire sur un pays en particulier. Ce déjà vu, c'est une allusion à 2020, au début du Covid, quand les taux italiens s'étaient envolés et que Christine Lagarde avait dit que ce n'était pas le problème de la BCE, ce qui avait encore aggravé la situation. Cette fois, la BCE reste attentive à ce qui se passe sur les marchés de la dette des États de la zone euro, a rassuré sa présidente, et ce marché, nous dit-elle, est fluide. Si la question est si souvent revenue, c'est que la Banque Centrale Européenne aurait la capacité d'agir pour limiter les tensions sur la dette française. Via la Banque de France, elle en détient autour de 19%. Ce stock diminue au fur et à mesure que ces titres de dette sont remboursés. Il pourrait diminuer diminuer moins vite en cas de vraie difficulté de la France à placer sa dette, ce qui n'est pas le cas. Comme plusieurs journalistes revenaient malgré tout sur le cas français, Christine Lagarde s'est fendue d'un diplomate. « Je suis convaincue que les décideurs politiques sauront, dans cette période d'incertitude, réduire autant que possible l'incertitude. » Après la dissolution, elle avait répondu plus directement que la BCE ne voudrait pas être accusée de voler au secours d'un État à cause, je cite, de douleurs auto-infligées.
Marie Viennot, chef du service économique de France Culture. En attendant, l'INSEE revoit à la hausse sa prévision de croissance pour l'économie française. Plus 0,8% cette année contre une prévision initiale de 0,6%. Le gouvernement Bayrou, lui, tablait sur 0,7%. L'INSEE insiste toutefois sur le caractère fragile de cette croissance alors que la crise politique pèse sur la confiance des ménages et sur la consommation. Dans ce contexte économique incertain, le Secours Populaire publie aujourd'hui un baromètre préoccupant sur la précarité en France. Exemple, un tiers des Français ont du mal à se nourrir sainement, même si l'inflation a ralenti. Ils sont encore plus nombreux à payer difficilement leurs factures d'énergie. Camille Manière, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Malgré une légère amélioration, le Secours Populaire note que la précarité s'installe dans le quotidien des Français.
Alors en ce qui concerne cette légère amélioration, elle est à mettre, il faut le dire, sur le compte du retour à la normale de l'inflation. On en a parlé, laquelle avait entamé le niveau de vie de nombreux Français. Mais pour le reste, les résultats de ce baromètre donnent l'image d'une société française, c'est vrai, où la pauvreté et ses conséquences font partie de notre paysage social, de la réalité que vivent des millions de nos concitoyens. Ce baromètre ne leur demande pas combien ils et elles gagnent, mais il se base sur leur ressenti et leur confiance dans l'avenir. Et l'on y apprend donc que 34% des interrogés disent vivre avec un risque important, voire très important, de basculer dans la précarité dans les prochains mois. Et c'est pire si l'on regarde les jeunes, les 18-34 ans, la moitié d'entre eux dit ressentir un fort sentiment d'angoisse par rapport à leur situation actuelle et surtout par rapport à leur avenir. Un jeune sur cinq se dit même désespéré avec toutes les conséquences que l'on peut imaginer sur la santé mentale de toute cette génération. Problèmes de stress, troubles du sommeil ou épisodes dépressifs reviennent de plus en plus fréquemment et c'est un phénomène, il faut le dire, que l'on retrouve dans la plupart des jeunesses européennes auxquelles s'intéresse également le baromètre. Une génération donc de plus en plus obligée de demander de l'aide pour ne pas basculer dans la précarité, mais qui cherche aussi à aider elle-même avec une envie et une capacité d'engagement, nous dit-on. Engagement solidaire ou dans la défense de grandes causes qui, lui, ne faiblit pas.
Merci Camille Magnard. Face à un océan de contenu néfaste, dit-elle, la commission d'enquête parlementaire sur TikTok recommande l'interdiction des réseaux sociaux au moins de 15 ans. La commission qui pointe aussi de la violence sous toutes ses formes sur la plateforme chinoise, celle où les adolescents passent le plus de temps aujourd'hui. Rappelons qu'Emmanuel Macron avait souhaité cette interdiction des réseaux sociaux aux plus jeunes. Pierre Ropert, bonsoir.
Bonsoir.
On va s'intéresser ce soir à deux autres propositions de cette commission d'enquête, le couvre-feu numérique pour les 15-18 ans et la création d'un délit de négligence numérique pour les parents jugés irresponsable.
Oui, au total, 43 propositions ont été formulées par la commission d'enquête. Parmi ces dernières, un couvre-feu numérique est recommandé, car face à des réseaux sociaux qui entretiennent l'addiction, il faut faire en sorte que leurs applications soient indisponibles de 22h à 8h du matin, explique la rapporteuse de la commission d'enquête, la députée Renaissance, Laure Miller.
Il y a un sujet qui est revenu dans beaucoup de nos auditions de la part des professionnels de santé, qui est la question du sommeil. Et donc je pense qu'il faut qu'on puisse préserver le sommeil, qu'il faut qu'on puisse donner à nos enfants une phase de répit nocturne et la garantir, la sanctuariser, d'où la question du couvre-feu numérique qui leur permettrait de dormir apaisés sans avoir à regarder leurs notifications ou sans avoir de difficultés à se détacher de leur téléphone.
Autre mesure envisagée, mieux réglementer les algorithmes, augmenter les moyens des autorités de régulation, mais aussi l'instauration d'un délit de négligence. Il s'agirait de créer une infraction pour sanctionner les parents qui ne protègent pas la santé de leurs enfants face aux outils numériques. Laure Miller.
Je suggère aussi la question d'un délit de négligence parentale numérique. Alors évidemment, l'idée n'est pas de mettre en prison des parents, c'est pas du tout l'objet, mais c'est l'idée de créer peut-être un électrochoc, de dire finalement, tout le monde est responsable dans l'histoire. Évidemment, les premiers responsables sont les plateformes eux-mêmes qui ont créé cet outil terrible, mais les parents doivent aussi protéger leurs enfants. Ces écrans présents dans la vie des plus jeunes, ils ont un impact sur le cerveau, qui est un impact très délétère, évidemment.
La rapporteuse a également souligné la nécessité d'étudier la question des alternatives proposées au numérique pour les mineurs. La jeunesse est un angle mort de nos politiques publiques aujourd'hui, a-t-elle précisé, en particulier les adolescents.
Explication signée Pierre Roper, interrogé par l'AFP. TikTok a catégoriquement rejeté, je cite, la présentation trompeuse de la commission d'enquête qui cherche à faire de notre entreprise un bouc émissaire, fin de citation. Un mot du temps demain qui restera nuageux et souvent pluvieux sur les trois quarts du pays, des pluies qui pourraient être abondante sur la Somme et le Pas-de-Calais. En revanche, le soleil continuera à dominer sur la vallée du Rhône et le pourtour méditerranéen. Demain matin, il fera entre 8 et 21 degrés du nord au sud. L'après-midi, comptez entre 17 et 31 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun. Dans un instant, notre rendez-vous consacré aux enjeux des élections municipales.
France Culture, élections municipales 2026. Maire, pourquoi faire ?
Troisième épisode de notre rendez-vous hebdomadaire, Maire pourquoi faire. On s'intéresse ce soir aux communes nouvelles, plus de 840 aujourd'hui en France, sur un total de 35 000 communes. Il s'agit en fait de nouvelles entités, nées d'un regroupement de communes créées en 2010. Leur statut juridique a été renforcé par une loi de 2015. Une commune nouvelle permet de rationaliser les dépenses des petites communes qui la composent, en leur permettant de continuer à investir sur leur territoire. Mais à l'heure où l'État cherche à faire des économies budgétaires, où les services publics ferment en milieu rural, ces communes nouvelles sont-elles toujours la solution? L'Association des maires de France en est convaincue. L'AMF, qui a organisé cet été des assises à ce sujet, c'est un reportage de Jeanne Serrin.
Bienvenue pour ces nouvelles assises.
Elles sont plutôt rares les fois où Jean-Pierre David vient à Paris, mais cette fois-ci, le maire de Fliret, petite commune en Lorraine de moins de 200 habitants, a jugé bon de faire le déplacement car il cherche à en savoir plus sur les communes nouvelles.
Moi, bon, c'est pas ma tasse de thé, mais j'ai été sollicité par un village voisin qui m'interroge en disant peut-être que on pourrait. Bon, alors moi j'aime mieux un petit chez moi qu'un grand chez les autres. Hein, donc ça, c'est ma philosophie personnelle. Mais bon, on comprend bien quand même que les services publics dans nos petits villages, on n'en a même plus déjà aujourd'hui. En Lorraine, à ce niveau-là, tout est à reconstruire.
Certains penseront immédiatement à la campagne de mars 2026.
Mais sur scène, les arguments ne manquent pas pour vanter les bénéfices de ce statut. Philippe Chalopin, maire de Baugé en Anjou, commune nouvelle du Maine-et-Loire.
Alors une commune nouvelle, ça représente en fait des regroupements de communes. Alors ce ne sont pas des fusions parce qu'on garde l'identité de la commune historique, mais en fait ce sont des communes qui ont décidé de ne faire plus qu'une seule commune. Donc on regroupe les moyens, on mutualise tout à 100%. Quand vous n'arrivez plus sur un territoire à apporter le même service public à tous les habitants, que vous avez des problèmes, par exemple dans le domaine de la santé, les cartes scolaires, les commerces qui ferment, les communes qui se désertifient, là, il y a urgence, il faut faire une commune nouvelle parce que ça permet d'éviter ce genre de dilution du service public.
Alors comment ? Eh bien très concrètement, ce statut ouvre la voie à des avantages financiers, exonération fiscale, dotation spécifique.
Sur ce budget 2025, j'avais plus 70 000 euros à inscrire et on fait des choses avec une somme comme celle-ci.
Brigitte Manet est maire de la commune nouvelle de Valsonnette dans le Jura qui regroupe 5 communes déléguées. En tout, 1300 habitants qui peuvent aujourd'hui se rendre en mairie tous les jours, alors qu'avant, dans certains villages, il n'y avait qu'une seule permanence, 2 heures par semaine. C'est donc le retour du premier service public, se réjouit la maire, mais aussi de nombreux projets d'avenir.
On a pu développer des services à la population, notamment création d'une maison d'assistante maternelle. On a repris en main des bâtiments qui étaient des bâtiments communaux en mauvais état, avec des rénovations globales. On s'est vraiment investi dans la transition écologique et énergétique.
Plus 10% sur son budget annuel, c'est aussi le bilan positif que tire François Aubé, maire de la commune nouvelle de Mézidon-Vallée-d'Auge, dans le Calvados, créé en 2017 autour de 14 communes.
On a construit 2 nouveaux gymnases, construit un nouveau centre de loisirs. Nous avons pu développer un pôle santé qui accueille des médecins libéraux, donc qui est aujourd'hui plein. J'ai presque honte de le dire. Voilà, on n'a pas de souci d'accès aux soins sur notre territoire. Sans la commune nouvelle, nous n'aurions jamais pu être aussi attractifs pour attirer des médecins.
Ce maire socialiste compte bien défendre ce bilan aux prochaines municipales, mais alors qu'il pensait que la commune nouvelle était un acquis, le Rassemblement national, implanté sur son territoire, cherche de son côté à revenir dessus.
Comme la commune nouvelle a cette image de diminution de services dans l'inconscient des gens, c'est ta commune n'existe plus, t'as plus ton maire, ils se servent déjà de cela. Dans la campagne, on va vite démontrer qu'ils sont à côté de la plaque, mais clairement, ça va être un sujet.
Quant au maire qui envisage cette transformation en commune nouvelle, cela ne pourra se faire qu'après les municipales, nous disent plusieurs représentants de l'AMF ici. Ce serait trop risqué d'en faire un argument de campagne, car l'adhésion de la population à ce projet demande du temps.
Voilà pour ce reportage aux assises organisées par l'AMF. Alors, de fait, de nombreux maires y réfléchissent à deux fois avant d'engager leur commune dans un projet de fusion intercommunale. Jeanne Serrin a interrogé à ce propos le géographe Gabriel Bidot, auteur d'une thèse sur les communes nouvelles. Gabriel Bidot constate que le déploiement concret du dispositif ne correspond pas vraiment à l'intention initiale du législateur.
D'abord, je souhaiterais revenir avec vous sur l'idée même de communes nouvelles. Elles ont été créées par une loi de 2010. Quelles étaient les intentions des législateurs en créant ce nouveau statut ?
En fait, il y a dans l'idée des parlementaires de l'État d'une manière générale, il y a l'idée un peu reçue que lorsque les communes vont se regrouper, elles vont être plus efficaces et elles vont permettre de faire des économies. Surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'objectif initialement des législateurs, c'était que ce soit les toutes petites communes qui fusionnent. On disait qu'il y a trop de toutes petites communes. Mais en fait, ce n'est pas les toutes petites communes qui fusionnent. Ce sont plutôt les communes qui ont un poids similaire à la moyenne des communes françaises. Mais on observe beaucoup, beaucoup de toutes petites communes de quelques dizaines, quelques centaines d'habitants qui n'ont pas du tout fait le choix de fusionner.
Est-ce qu'on peut dire quand même, malgré cela, que 15 ans après cette loi de 2010, les objectifs recherchés ont été atteints ?
Il n'y a pas toujours de cohérence, ou en tout cas pas forcément de cohérence, entre les objectifs initiaux affichés dans la logique de fusion de communes et la réalité des fusions. Par exemple, un des objectifs avancés, c'était de rationaliser les périmètres, faire que les communes soient cohérentes avec les espaces vécus. Ce n'est pas ce qu'on observe. Un autre objectif avancé, c'était de faire des économies. Est-ce que c'est ce qu'on observe ? Non, plutôt pas. Les communes ont plus de ressources, dépensent plus pour potentiellement davantage de services aux habitants, ce qui est positif, mais pas forcément en faisant des économies. Et donc, ce qu'on observe plutôt, c'est un effet d'aubaine des communes qui se sont dit, voilà, il y a ce statut, on va en profiter pour en faire quelque chose, mais ça veut dire aussi que ce statut de commune nouvelle, il est utilisé, en fait, par des communes qui n'étaient pas forcément les communes visées de prime abord.
Cet effet d'aubaine dont vous parlez, il semble se tasser puisqu'on a de moins en moins de créations de communes nouvelles ces dernières années. Comment vous expliquez ce phénomène ?
Il s'explique pour différentes raisons. D'abord, pendant un moment, les incitations fiscales étaient limitées dans le temps. Et donc à ce moment-là, il y a des communes qui se lancent, qui peut-être ne se seraient pas lancées à ce moment-là s'il n'y avait pas eu l'incitation fiscale. Aujourd'hui, les incitations sont pérennes dans le temps. Donc cet argument, il est moins valable. La deuxième raison qu'on peut évoquer, c'est que on commence à observer, dans certains cas, des difficultés concernant les fusions. Peut-être que là aussi, certains autres élus peuvent regarder ça et se dire « est-ce que c'est vraiment pertinent ?». Troisième raison, il y a le rôle des élections municipales. C'est-à-dire que, d'une part, juste avant des élections, juste après des élections, c'est pas forcément évident de mener des grands projets comme ça. Et puis même, du point de vue de la loi, c'est interdit de modifier les circonscriptions, normalement, un an avant les élections. Donc, par exemple, là, ça fait quelques mois qu'il est plus possible de faire des fusions de communes, et ce, jusqu'aux élections municipales de mars 2026.
Est-ce que ce projet, il est bien compris par les habitants ? Est-ce qu'ils y adhèrent ?
Alors, il y a une difficulté qui est réelle, qui est la difficulté de lecture des structures territoriales pour les habitants. C'est-à-dire que c'est pas forcément évident pour eux de comprendre la commune déléguée, donc les anciennes communes qui ont fusionné, qui parfois conservent une existence, la commune nouvelle, l'intercommunalité. Donc, il y a cette difficulté de lecture qui peut derrière poser un problème démocratique de compréhension des enjeux politiques. Deuxième difficulté, il y a nécessairement un éloignement à la mairie centrale de la commune. Il peut y avoir des mairies annexes qui sont maintenues, mais forcément, il n'y a plus qu'un seul maire pour un nombre de communes, donc il y a forcément un éloignement. Dans certains cas, en fait, on observe quand même qu'il y a des projets de territoire équilibrés, une gouvernance très soignée entre tous les acteurs, parfois autour de chartes de gouvernance qui sont sans valeur juridique, mais qui sont importantes symboliquement. Parfois, on observe quand même qu'une commune va profiter davantage que les autres de ce regroupement. Et donc ça, effectivement, dans certains cas, ça peut être négatif.
Et justement, est-ce que ces effets négatifs altèrent le sentiment d'appartenance des habitants à leur commune, un sentiment qui leur est très cher ? C'est la crainte de beaucoup de maires qui sont réticents à ce type de projet.
Les communes nouvelles se sont créées dans une logique de démocratie représentative. Elles sont décidées par les conseils municipaux, mise en œuvre par les conseils municipaux, la population n'a pas nécessairement à être consultée. En général, les élus font en sorte que la population soit informée, mais pas forcément qu'elle soit consultée. Et ça, ça peut conduire, dans un certain nombre de cas, à un éloignement du citoyen de ce territoire local qu'est la commune. Par exemple, lors des dernières élections municipales, alors l'abstention a été plus élevée partout, parce qu'il y avait le contexte du Covid-19, etc. Mais on observe une abstention vraiment plus forte dans les communes nouvelles. Et donc ça interroge. Est-ce qu'on va voir une abstention qui se poursuit, par exemple, lors des prochaines élections ?
Le géographe Gabriel Bidot au micro de Jeanne Serrin. Maire, pourquoi faire ? Un rendez-vous hebdomadaire de la rédaction de France Culture tous les jeudis à 18h15 jusqu'au municipal de mars prochain. Rendez-vous à retrouver sur franceculture.fr et sur l'application Radio France.